L'âme est créée dans le corps. Le corps vient de nos parents, père et mère. À quel moment l'âme est-elle créée dans le corps? Je n'en sais rien. Et vous non plus. Le savant ne peut pas le savoir. Parce que le savant ne peut pas atteindre l'âme par elle-même. Il peut atteindre les opérations de l'âme, mais n'atteint pas l'âme. Je ne sais pas et je ne peux pas savoir avec certitude quand l'âme est créée par Dieu. Ça reste un mystère naturel, mais un mystère. Alors, il y a des positions philosophiques multiples là-dessus. Je n'en parle pas, c'est pas intéressant, ça n'avance à rien, puisqu'on ne peut pas le savoir. Les gens désirent le savoir. Les philosophes désirent le savoir. Alors, ils mettent des hypothèses. Vous pouvez mettre des hypothèses. Est-ce que Dieu crée l'âme en même temps que la conception du corps? Ça arrangerait tout, ça. Dieu répond en créant l'âme au moment de la conception. Mais il y a la question des jumeaux. Les jumeaux, ça fait un barrage. Parce que il y a quand même deux âmes. Alors, il y a dans la conception, il y a une conception. La division ne se fait que le second jour. Donc, ceci fait que on ne peut pas dire que l'âme est créée dès le point de départ. Et ça, c'est très intéressant à affirmer. Parce que, vous comprenez, beaucoup de chrétiens, un peu apologètes, vont dire que si on empêche conception de s'épanouir, on tue l'âme. On ne peut pas tuer l'âme, mais on tue le vivant qui est un homme. Dans la conception de l'homme et de la femme, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, un être nouveau qui apparaît dans le sein maternel. C'est ça la conception. Cet être nouveau est en vue de l'homme ou de la femme, en vue du petit. si on le laisse se développer, il devient un petit fœtus, un être nouveau, tout de suite. C'est ça qui est très extraordinaire. Mais cet être nouveau, issu des parents, provient du pouvoir que l'homme et la femme d'engendrer. Mais l'âme vient de Dieu et non pas des parents. L'âme spirituelle ne peut venir que de Dieu. À quel moment l'âme est-elle créée? Je n'en sais rien. Et je ne peux pas le savoir. Parce que le savant ne peut pas saisir l'âme. Il saisit les effets de l'âme, de la présence de l'âme. Mais l'âme, comme telle, échappe à la connaissance scientifique. L'âme est créée dans l'embryon, dans le fœtus, mais à quel moment? C'est ça qui est très extraordinaire, hein, que l'action de Dieu, de la création de l'âme, échappe à la connaissance humaine. Je constate qu'il y a une âme, quand le petit bonhomme qui est né développe sa vie, il développe une vie qui n'est pas seulement animale, mais il développe une vie spirituelle. Le premier sourire de l'enfant montre qu'il y a une âme. Le sourire ne peut pas provenir de la connaissance sensible. Vous n'avez jamais vu un singe sourire. Et c'est curieux, comme les gros singes ne supportent pas le sourire de l'homme. En Afrique, j'ai fait exprès l'expérience, parce qu'on dit que c'est toujours la parole qui distingue l'homme. C'est pas la parole, c'est le sourire. Le premier signe de l'âme, c'est le sourire. C'est du reste charmant. L'animal ne sourit pas. Je n'ai jamais vu un singe sourire. Et un singe, les gros singes, sont furieux de voir l'homme qui sourit. Parce que l'homme fait quelque chose que le singe ne peut pas répéter. Il faut faire attention, parce que vous les mettez de mauvaise humeur quand vous souriez. Ils ne peuvent pas le répéter, donc ils sont de mauvaise humeur. Quand ils peuvent répéter, vous savez, les cris répètent à leur manière. Mais le sourire, le singe ne le répète pas. Je me suis toujours demandé pourquoi la mère est tellement attentive au premier sourire. Il n'y a pas que la mère, les artistes sont très attentifs aux mes sourires. C'est l'éveil de l'intelligence. C'est l'aurore. Au doigt de rose. C'est l'aurore. L'éveil de l'intelligence. se fait dans le sourire. S'il n'y avait que la connaissance sensible, il n'y aurait pas de sourire. Le sourire provient de l'intelligence, dans ce qu'elle a de tout à fait premier, a saisi un rapport. Il y a une relation dans le sourire. On dit en riant qu'on sourit aux anges. Hein. Mais on ne sourit pas aux anges parce qu'on ne les voit pas. On sourit à la mer, ou on sourit à quelqu'un qui s'occupe de nous et qui nous fait sourire. On arrache le premier sourire. Le sourire est le signe d'une connaissance de la relation. On sourit devant une relation curieuse. Vous riez devant une situation curieuse. Quand on voit un homme extrêmement sérieux, qui a une démarche très sérieuse, et puis qui glisse, alors le sérieux de l'homme, subitement, de cet homme sérieux, disparaît, parce qu'il essaie de ne pas tomber. Et il n'y a rien de plus qui fait sourire que de voir cette majesté qui dégringole. Et ça fait sourire. Et tout le monde sourit. L'enfant sourit avant de parler. Le sourire est une manifestation de qu'on saisit une relation. C'est très curieux. Mais ça, c'est la naissance, sûrement, qu'il y a l'âme chez le petit. Cet enfant peut, et puis après la parole. Et l'existence de l'âme spirituelle, c'est la saisie de la relation. C'est la première chose qu'on fait. C'est la relation que je ne saisis pas par le point de vue sensible. Je peux saisir des relations sensibles, c'est sûr, mais je ne saisis pas la relation. C'est très curieux. Et c'est le sourire qui donne une présence nouvelle du petit enfant, une présence nouvelle. Il est présent là comme un être non seulement vivant, mais comme un être intelligent. L'éveil de son intelligence se fait dans le sourire. C'est très étonnant, ça. J'ai jamais vu un animal sourire. Une vache sourire. La vache qui rit, ça c'est... Elle ne rit jamais, aussi. C'est pour le fromage. C'est le sourire qui dénote une présence spirituelle. C'est pour ça que dans l'art, c'est la Grèce, comparativement à l'Égypte, qui a découvert le sourire. Le sourire de l'enfant, le sourire du tout petit. Et dans l'art égyptien, ça n'existe pas. Sérieux. Quelque chose de très creux dans le sourire. Mais c'est la présence. présence de l'esprit. Le sourire de Marie, qui ne parle pas, mais qui sourit. C'est une présence. Alors, c'est très bien, mais ça c'est après la naissance. Après la naissance, c'est bien évident qu'il y a l'âme, et que l'âme n'est pas donnée après la naissance, l'âme est donnée dans le sein maternel. À quel moment ? Il y a une année où j'avais 6 étudiants qui avaient fait tous leur étude de biologie et qui connaissaient très bien le développement du fœtus, le développement de l'embryon. On connaît parfaitement le développement de ce que représente l'homme nouveau, le petit enfant. On le connaît non pas du tout d'une façon continue, mais d'une façon tellement rapprochée que ça fait presque continu. À quel moment ? On ne peut pas le savoir d'une façon exacte. Je me pose la question, hein. Mais je ne crois pas du tout à cause des jumeaux qu'on peut identifier la conception avec le point de vue du premier moment. Où il y a un œuf, où il y a quelque chose qui va grandir. Alors, je me pose la question, c'est hypothétique. Hein. Ce qui est curieux, c'est qu'on a toujours, dans les traditions, lié le sang et l'âme. Le sang et l'âme sont liés. C'est pour ça que le martyr, où le sang est versé, l'âme est offerte à Dieu. Or, c'est à peu près au 11e jour que il y a un rythme particulier pour le fruit de la conception. Avant, le rythme de la vie est tellement lié à la mère qu'il est inséparable de la mère. Tandis que le 11e jour, je crois bien, à peu près, il y a un cycle de vie particulier. Alors, je me demande si l'âme présente ne donne pas justement, première signification, un cycle de vie particulier, un rythme de vie qui se manifeste de cette manière. Peu importe, si vous voulez, pas le savoir d'une façon exacte, mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'on ne peut pas dire que la conception et la naissance de l'âme est en même temps, à cause des jumeaux. Création de deux âmes, chaque jour. après les possibilités qu'il y a de des jumeaux. On ne peut pas savoir, mais on peut dire, à un moment donné, on est à peu près sûr qu'il y a une âme, un principe de vie original de l'enfant, qui n'est plus le principe de vie de la mère, alors qu'au point de départ, c'est le rythme de vie de la mère qui l'emporte. Nous avons tous vécu au point de départ quand notre âme n'était pas créée. Nous avons vécu une unité avec la vie de notre mère très forte. Il y avait le rythme de vie qui était le même. Et il me semble que c'est quand l'âme est créée qu'il peut y avoir un rythme de vie séparé, même si l'embryon ne peut pas vivre en dehors du sein maternel. On ne peut pas réaliser artificiellement le rythme du sein maternel. Il faut que déjà l'enfant soit déjà formé. Quand il y a une naissance avant terme, on peut garder le petit sous cloche, avec des soins très particuliers, pour continuer la formation de l'embryon. C'est très touchant, ça, de voir que le rythme de vie de l'embryon est lié à celui de la mère et qui n'a pas de rythme propre. Il en a un très vite, mais qui ne peut pas se séparer complètement. Oui, c'est la continuité, la séparation. C'est ça le problème de la génération. Il y a une continuité et il y a une séparation. À quel moment dans la continuité, il y a cette séparation. Création de l'âme. Il y a eu création de l'âme. À quel moment? Je ne sais pas. Exactement. La continuité explique l'atavisme. Et l'atavisme est quelque chose de très fort. C'est marqué dans notre corps, l'atavisme. Des détails très extraordinaires au point de vue corps qui est l'atavisme. Or, pour que l'atavisme soit si fort, ça demande en quelque sorte que l'âme ne soit pas présente. Et mettre l'âme tout de suite présente, ça n'expliquerait pas l'atavisme. Puisque ce serait l'âme qui serait la forme de tout le développement. Tandis que si il n'y a pas d'âme, l'atavisme joue à plein. Le premier développement du corps est dépendant de l'atavisme, donc il est dépendant du père et de la mère. Et ça se retrouve dans les détails même du corps. Des petits détails que la mère, elle, qui connaît le corps de l'enfant, s'aperçoit. C'est comme ça qu'on peut détecter assez vite si vraiment l'enfant est des parents. Il n'y a pas sûr. Entre deux, un malin génie qui est passé. problème du corps et de la dépendance par rapport à tout l'atavisme, c'est ce qu'on appelle, au point de vue philosophique, l'individuation. Le problème de l'individuation. Vous voyez, ce problème est complexe. Il dépend de l'atavisme et il dépend de l'âme. L'atavisme est tout à fait en dehors de l'âme, c'est le père et la mère. Et l'enfant ressemble au père et à la mère. Dans une famille, on reconnaît bien l'atavisme du père et l'atavisme de la mère, qui ne sont pas les mêmes, et qui apparaissent bien d'une façon assez nette. Et puis, la création de l'âme, la création de l'âme fait de nous un individu distinct du père et du mère, et distinct dans tout ce que l'âme informe. L'âme est forme du corps. Mon âme est forme de mon corps. Et mon corps a été disposé à telle ou telle forme, en ce sens que la parenté que j'ai, la parenté vitale qu'il y a entre le fœtus, et la mère, le père. Et que ce lien de parenté montre bien notre dépendance à l'égard de la formation de notre corps, qui reste dépendante façon si forte de tout l'atavisme. L'atavisme est une chose extraordinaire comme puissance. On est très attentif à ça aujourd'hui. Peut-être trop de temps en temps. On est très attentif à ça. On a raison. Certaines maladies qui se transmettent par le corps. Toutes les maladies se transmettent par le corps. L'âme n'est pas malade. Elle est malade au moment même où elle informe le corps. C'est à ce moment-là que l'âme n'a plus sa pureté première. Quand elle est créée par Dieu, elle est absolument pure. Mais Dieu l'a créée dans le corps. Ça, on peut être sûr. Il ne crée pas l'âme séparément. Il l'a créée dans le corps. Et c'est toujours la même âme. Spécifiquement la même âme. Qui s'individualise et qui prend des caractères différents en fonction même de l'individuation, du corps. C'est par le corps que je suis individué, que je suis un individu. Alors vous voyez, l'âme subsiste, le point de départ de la personne. Et mon âme est reçue dans le corps. Donc, elle est individuée par le corps. Je suis le fils de mes parents. Par ma mère, je suis le fils. il y a tout de suite ce problème extrêmement important, qui n'est pas un mystère. Hein. Tout ce qui regarde le corps n'est pas mystère. Donc la puissance de l'atavisme et la force de l'atavisme, c'est pas mystérieux. C'est quelque chose que le savant cherche à connaître et il est très étonné de voir combien l'individuation peut remonter loin. C'est pas seulement une génération, c'est pas seulement les grands-pères. Non, ça remonte beaucoup plus loin. Il y a un lien vital, immanent vital, avec tous mes parents, que je n'ai jamais connus. Mais mes parents continuent de vivre dans leurs petits descendants. C'est extraordinaire, ça, au point de vue vie, de voir ce que représente l'atavisme. Mais, alors ça, on l'étudie, on peut l'étudier, et les savants peuvent l'étudier, et mettre des hypothèses, parce que comme c'est un domaine très délicat, on émet des hypothèses les plus extraordinaires. Parce que vous voyez, chacun d'entre nous, nous avons une âme individuée. Mon âme a tout de suite été individuée dès qu'elle a formé mon corps. Avant, elle n'était pas créée. Elle a été créée dans mon corps. Donc, l'individuation qui vient du corps, relève de la plus tendre enfance. Dépendance. Des liens extraordinaires avec mes ancêtres. Et qui deviennent miens par individuation. Je ne suis pas responsable des fautes de mes ancêtres, mais j'en paie les conséquences. Ça se voit très fort chez des enfants, des alcooliques. Ils ne sont pas coupables des fautes du parent, mais les conséquences se marquent dans le corps. Et ceci, ça fait partie de la manière dont Dieu a voulu la race humaine. C'est propre à l'homme, à cause du corps. C'est quelque chose de tout à fait caractéristique pour l'homme. Et le point de vue de la génération est très profondément marqué. Étudier de près, mais jamais avec sûreté. Ce sont des hypothèses, surtout l'atavisme. J'avais un arrière-grand-père qui buvait beaucoup, était ivre du matin jusqu'au soir. Les dents de ses petits-fils s'en sont agacées. Énormément attention à ça, surtout au point de vue du mariage. Vous voyez, parce que c'est deux atavismes différents qui s'unissent, et le petit enfant dépendra de ces deux atavismes dans son individuation. C'est ça l'individuation. Mon individuation, c'est la rencontre de l'âme créée par Dieu dans le corps. Dieu n'a pas créé l'âme en elle-même. Il a créé l'âme dans le corps. Tout de suite. Alors l'âme étant créée dans le corps, l'âme informe le corps. Mais il y a comme une réciprocité. C'est bien l'âme qui détermine le corps. Mais le corps, dans ses dispositions, dans ses qualités et ses défauts, est assumé par l'âme. Donc, tout de suite, l'âme est individuée. De l'extérieur, c'est-à-dire par le corps, mais comme le corps et l'âme impliquent une information que l'individu, c'est les deux, que l'individu qui naît, il y a une soumission très, très et étudier cet atavisme est évidemment extrêmement intéressant et en même temps vous ne pouvez jamais avoir des certitudes. Ce sont des hypothèses qui sont quelquefois très justes, très exactes, mais ce sont des hypothèses. Je suis le fils, le petit-fils de mon grand-père et certains de ces défauts se retrouvent dans mon corps. Il y a tout un aspect qui provient de mes parents, du caractère de mes parents, et qui sont présentes dans mon corps. Et je peux détecter cette présence, ses qualités, ses défauts. Alors, ça a été un problème philosophique, parce que vous comprenez que ça, seul le philosophe peut en parler, puisqu'il parle de l'âme. Le savant constate que chaque enfant est individué dans un corps qui est naturellement le même, mais qui pourtant est unique dans son individuation. Le caractère unique de l'individuation, c'est justement que tout l'atavisme qui se transmet par le corps est unique. Nous avons une originalité par notre corps. Et cette originalité, l'âme la prend en informant le corps. C'est mon originalité provient de mon âme, provient de mon corps et remonte à mon âme. Et cette originalité peut aller très loin. Elle montre que le corps humain est unique. Il n'y a pas deux corps semblables. Ils sont semblables génétiquement, en ce sens que c'est un corps humain et une âme humaine. Mais dans leur caractère propre, dans l'équilibre, ils sont uniques. L'individuation fait ressortir ce qu'il y a d'unique absolument dans chacun d'entre nous. Et ça provient du corps. C'est la transmission du corps. Voyez que l'individuation provient du corps, la subsistance de l'âme. Et j'existe en portant les deux. Et il y a quelquefois un déséquilibre très très grand entre les deux. Corps très fatigué par un atavisme terrible. J'ai une âme qui a une jeunesse éternelle. Mon âme n'a pas d'âge. Elle est au-delà du temps. Tandis que mon corps, il est dans le temps. Le temps est le lieu.